Aujourd'hui, nous sommes dans le chapitre 20. Alors, ce n'est pas nécessairement que je veuille aller par chapitre, mais dans cette section tout au moins, les divisions entre chapitres sont assez bien faites. Et donc, nous allons aller au chapitre 20. Et vous avez vu dans l'annonce de ce message que nous regardons donc Genèse 20, et le titre donné à ce message, c'est « Le prince et le prophète ». Mais je vais donner lecture à ce chapitre 20. Abraham partit de là, c'est-à-dire de Mamré, pour la contrée du Midi. Il s'établit entre Kadès et Chour, et il fit un séjour à Guérar. Abraham disait que de Sarah, sa femme, c'est ma sœur. Abimélec, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Alors Dieu apparut en songe à Abimélec pendant la nuit et lui dit : Voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Abimélec, qui ne s'était point approché d'elle, répondit : Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste ? Ne m'a-t-il pas dit « c'est ma sœur » et elle-même n'a-t-elle pas dit « c'est mon frère » ? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. Dieu lui dit en songe « Je sais que tu as agi avec un cœur pur. Aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touches. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est un prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. » Verset 8. Abimélec se leva de bon matin. Il appela tous ses serviteurs et leur rapporta toutes ces choses. Et ces gens furent saisis d'une grande frayeur. Abimélec appela aussi Abraham et lui dit « Qu'est-ce que tu nous as fait ? Et en quoi t'ai-je offensé que tu aies fait venir sur moi et sur mon royaume un si grand péché ? Tu as commis à mon égard des actes qui ne doivent pas se commettre. » Et Abimélec dit à Abraham « Quelle intention avais-tu pour agir de la sorte ?» Abraham répondit « Je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays. » Et que l'on me tuerait à cause de ma femme. De plus, il est vrai qu'elle est ma sœur, fille de mon père, seulement elle n'est pas fille de ma mère, et elle est devenue ma femme. Lorsque Dieu me fit errer loin de la maison de mon père, je dis à Sarah, « Voici la grâce que tu me feras. Dans tous les lieux où nous irons, dis de moi, c'est mon frère. » Abimélec prit des brebis, et des bœufs, des serviteurs et des servantes, et les donna à Abraham, et il lui rendit Sarah, sa femme. Abimélec dit, « Voici mon pays est devant toi, demeure où il te plaira. » Et il dit à Sarah, « Voici, je donne à ton frère 1000 pièces d'argent. Cela te sera un voile sur les yeux pour tous ceux qui sont avec toi, et auprès de tous, tu seras justifié. » Abraham pria Dieu et Dieu guérit Abimélec, sa femme et ses servantes, et elles purent enfanter. Car l'Éternel avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimélec à cause de Sarah, femme d'Abraham. Et c'est la parole de Dieu. Les deux derniers chapitres que nous avons étudiés se sont déroulés à l'intérieur de 24 heures. La visite de l'Éternel à Abraham, l'annonce de l'arrivée de l'héritier, le temps de prière ou d'intercession entre Abraham et Dieu, et puis la destruction de Sodome, le salut de Lot, tout cela en moins de 24 heures. Et suite à l'annonce de l'arrivée imminente de l'héritier tant attendu, on pourrait penser que ce chapitre 20 s'ouvrirait sur la naissance promise, ou tout au moins sur une attente fébrile de cet événement qui a tant tardé. Mais il n'en est rien du tout. Comme si de rien n'était, nous lisons qu'Abraham partit s'installer pour la contrée du Midi, c'est-à-dire vers le sud-ouest de la Palestine, un lieu où il va rester pendant très longtemps, probablement quelque chose comme 3 décennies. C'est un peu à l'ouest, sud-ouest de Jérusalem maintenant. Et ce chapitre d'apparence assez anodine, en fait, a en fait posé toutes sortes de problèmes aux experts et à beaucoup d'autres gens avec eux. Et il a donné naissance à de multiples suggestions, des supputations et autres explications pour pouvoir finalement le faire entrer dans la logique de l'homme. Certains ont même été jusqu'à imaginer que les événements décrits ici se sont déroulés en fait avant les situations abordées au chapitre précédent. Quoi qu'il en ait, nous ne savons pas trop. Et il faut avouer que les questions sont nombreuses, très nombreuses, questions sans réponse. Pourquoi Abraham a-t-il voyagé sachant que Sarah allait enfanter? Pourquoi répéter l'erreur commise en Égypte une 20aine d'années avant? Comment Abimélec peut-il poser les regards et désirer épouser une femme de 90 ans? Des questions. Quel était le mal dont l'Éternel avait frappé les habitants et comment s'en était-il rendu compte en si peu de temps? On parle de la stérilité à cause de Sarah et pourtant on parle de questions de semaines ici. Tout au plus, un mois et demi, 2 mois, pas plus. Des grandes questions. Quelles étaient toutes ces choses? Et en fait, que veulent dire toutes ces interactions entre Abraham, Abimélec, Sarah dans ce chapitre? Si les experts ne sont pas arrivés à trouver des réponses crédibles, ou tout au moins universellement acceptées, alors il serait futile pour nous d'essayer de résoudre ces problèmes. Futile, puis franchement, aussi inutile. Il nous suffit de savoir que le Dieu qui ne ment pas a révélé ces choses dans sa parole infaillible. Et, connaissant sa sagesse parfaite, nous pouvons par la foi accepter ces choses et avoir la certitude qu'il nous donnera un jour l'explication. En attendant, il convient de se rappeler certaines réalités concernant la parole de Dieu et de les laisser nous encadrer et nous guider dans notre réflexion, dans notre examen de la parole de Dieu. Et notre sous-point ici, je l'intitulerai « Histoire et alliance ».« Histoire et alliance », c'est un sous-point dans cette introduction. Pour commencer, il faut préciser que les événements de ce chapitre, bien que renfermant beaucoup de mystères, même encore pour nous, ces événements sont historiques. Ils se sont produits. Et la précision est importante. Elle est importante d'une part parce que beaucoup pensent à la Genèse comme en fait une histoire mythique, un conte. Et cela donne parfois aux croyants un complexe d'infériorité. On se sent d'emblée sur la défensive et on a l'impression qu'on est obligé de s'expliquer, de rendre la Genèse raisonnable pour tous ces savants de l'ère moderne. Mais je n'ai pas besoin de défendre ce que Dieu a dit, même si je ne le comprends pas pleinement. Dieu l'a dit, cela me suffit. Et quoi qu'en dise le monde, cela doit me suffire. D'autre part, il y a la tendance qui se présente de penser que si on n'arrive pas à expliquer quelque chose, ce doit être d'une manière ou d'une autre, moins que vrai, et qu'il est préférable de laisser la chose de côté, car cela nous plonge dans l'embarras. Je n'arrive pas à comprendre, donc je vais laisser de côté. Et je me rappelle un jour être face à une difficulté dans un verset en particulier, dans une des lettres de Paul, et n'arrivant pas à trouver la réponse ou n'arrivant pas à comprendre, je suis allé voir les commentaires d'un homme que je respectais beaucoup dans un livre. Et c'était très intéressant. Il avait des tas de détails au sujet du passage juste avant ce verset. Et puis il en avait tout autant pour ce qui suivait ce verset. Et d'une manière ou d'une autre, il avait simplement sauté par-dessus ce verset. Cela m'a beaucoup surpris à l'époque, mais depuis, je me suis souvent vu tenter de faire la même chose. Et nous le sommes tous, n'est-ce pas? Mais c'est une erreur. C'est une erreur. Non, je sais, parce que je crois en Dieu, que ces choses sont vraies. Et je sais que Dieu les révélera un jour dans toute leur clarté. En attendant, il me faut me demander pourquoi je rencontre un tel chapitre dans la révélation divine et pourquoi je le rencontre à cet endroit-là. Il y a une raison. Dans tous les passages, il y a des raisons, même si les choses ne sont pas claires tout de suite pour nous. En effet, Moïse n'a pas rapporté tous les détails de la vie d'Abraham. La Genèse n'est pas une chronique de la vie d'Abraham. Plusieurs décennies séparent parfois les événements à l'intérieur d'un même chapitre. Nous l'avons vu. Alors, la question se pose, que fait Moïse ici, dans ce chapitre, et pourquoi ce chapitre vient à cet endroit-là? Surtout, que vise Dieu en révélant les événements de ce chapitre? Rappelons-nous que toute la révélation divine s'articule autour d'un axe majeur, d'une sorte d'échine. Et cet axe majeur, c'est l'alliance de grâce, qui vise la gloire du Fils, la gloire du Père, dans le salut d'un peuple choisi et racheté, issu d'une race de péché et issu de toute nation, de toute langue dans le monde. Voilà l'axe majeur, et la révélation de Dieu se bâtit, s'articule autour de cela. Déjà, nous avons vu à maintes reprises que la main de l'homme n'a aucune place dans l'accomplissement de ce dessein de grâce. Et continuellement, nous voyons cela. C'est Dieu seul qui sauve, et Dieu sauve seul. Ici, nous voyons aussi qu'il prend soin de diriger toute chose afin que son dessein s'accomplisse. Quelquefois, nous avons le cœur en chamade au-dedans de nous parce que, alors que nous nous attendions à voir certaines choses se produire, alors que nous pensions que le déroulement du dessein de Dieu allait aller dans telle voie, eh bien, les choses vont complètement à l'envers et on a l'impression que tout est détruit. Combien de fois déjà nous l'avons vu dans la Genèse et combien de fois c'est dans sa parole? Non, ça n'est pas ainsi. Dieu prend soin de diriger tout, toute chose, ce que nous disons, ce que nous qualifions de bon ou de moins bon, dans le but d'accomplir, de l'accomplissement de son dessein. Et aujourd'hui, nous voyons des événements dans le monde, nous avons vu des choses dans le monde, qui touchent peut-être des vies privées, des choses comme ça, on se demande pourquoi. Eh bien, la réponse, en fin de compte, c'est parce que ces choses servent au dessein de Dieu. Pouvons-nous les expliquer? Pouvons-nous expliquer comment elles le font? Non. Mais nous savons qu'elles servent ce dessein de grâce. La fragilité de la chair de péché ne met jamais en danger ce qu'il a décidé et promis de faire. Et ici, mes amis, nous avons un rocher sur lequel nous pouvons nous enraciner. Quoi que ce soit que l'homme fasse, non seulement le dessein de Dieu ne peut pas être interrompu, même retardé, mais dans sa sagesse, Dieu utilise cela pour accomplir son dessein. Il le fait d'une manière mystérieuse, d'une manière de grande sagesse et d'une manière parfaite. Et c'est face à un tel Dieu que nous pouvons adorer, n'est-ce pas? Non, ne pensons pas que notre fragilité peut détruire ou même simplement retarder le dessein de Dieu. Cela ne nous exonère pas, car notre fragilité vient du fait que notre race a péché et que nous sommes touchés encore par le péché. Mais le dessein de Dieu est au-dessus de cela. Et c'est merveilleux. Et effectivement, c'est d'une grande force pour le croyant, pour le vrai croyant. Il sait que Dieu agit. Et bien que déplorant les tristes effets du péché dans sa propre chair, l'enfant de Dieu sait que rien ne peut ultimement entraver le dessein de Dieu. Quel repos céleste! Donc, des événements réels et historiques dans ce chapitre, des événements encore très mystérieux, n'est-ce pas? Et une alliance de grâce qui se déroule jour après jour, de façon inexorable, selon ce que Dieu a dit. Il y a d'autres facettes à cela, des facettes plus secondaires, et nous en verrons quelques-unes pendant notre temps ensemble. Examinons maintenant, mes amis, les trois personnages présents dans ce passage. Et premièrement, nous commençons avec Abimélec, notre premier grand point, Abimélec. Et donc Abimélec, comme pour Pharaon, ce n'est pas un nom personnel, mais cela le désigne comme le dirigeant. En fait, le mot signifie « mon père est le roi », et c'est un peu comme si nous dirions « président » ou si nous dirions « prince ». Il règne sur une partie du territoire qu'on appellera plus tard le pays des Philistins, c'est-à-dire toute la zone qui va vers la côte au sud-ouest d'Israël. Et nous lisons que Abimélec fit enlever Sarah une fois que Abraham et sa femme et tout ce qu'ils possèdent arrivent dans ce pays. Il fit enlever Sarah. Mais ce n'était pas un kidnapping. En fait, la traduction serait plutôt qu'il a envoyé une délégation pour faire venir la femme vers lui. Et étant bien entendu le dirigeant du pays, on ne peut pas refuser une telle délégation. Voilà, c'est ce qui se passe. Et comme indiqué avant, on peut s'étonner de voir Abimélec agir ainsi vis-à-vis d'une femme de cet âge. Sarah est âgée, n'est-ce pas, dans le chapitre précédent, ou même celui avant, elle s'est décrite comme étant usée. C'est une femme qui ne peut plus enfanter. On peut donc s'étonner, et certains avancent des solutions qui sont tricotées à la mode de l'homme. Certains diront que la puissante promesse de Dieu qui leur avait été faite dans le chapitre précédent, combiné aux hormones de la conception, avait rajeuni l'aspect de Sarah, et que elle qui était belle déjà depuis sa jeunesse, eh bien avait retrouvé un regain de beauté. Bon, la parole de Dieu ne dit rien de cela. D'autres veulent trouver une solution, et ils pensent que c'était plutôt de la part d'Abimélec une action qui avait une motivation politique. Il voulait, en prenant la sœur d'un homme si important, d'un homme qui avait été vraiment influent, qui était influent, n'est-ce pas, et qui, il le dira plus tard, était manifestement celui avec qui Dieu était, alors Abimélec voulait s'allier l'allégeance de ce frère. Et il a fait venir sa sœur chez lui. La vérité est plutôt que nous n'en avons aucune idée, sauf pour dire que Sarah se retrouve dans le harem de cet Abimélec avec la perspective de devenir sa femme. Et la grande question, bien sûr, est qu'est-ce qu'il va advenir de la promesse de Dieu? Parce que cette promesse n'est pas simplement que Dieu va donner une postérité à Abraham, mais que ce fils va venir par Sarah. Mais Sarah est maintenant chez Monsieur Abimélec. Que va-t-il advenir de la promesse, de l'accomplissement de la promesse? Voilà la grande question. Et dans la situation où nous sommes ici, nous voyons que l'homme, qui est en fait l'instigateur d'une telle situation, l'homme est complètement incapable de s'extirper de cette situation. Il n'y a pas d'espoir si on prend simplement l'homme en compte. En fait, la promesse de Dieu est sûre et certaine. C'est un lieu commun, n'est-ce pas? Et pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Dieu. Ce qu'il a promis va se produire. Et on a du mal à réconcilier ces deux choses, n'est-ce pas? Une situation inextricable et ce que Dieu a promis va se produire. Mais comment on peut s'y attendre? Voilà Dieu qui apparaît à Abimélec en songe, lisons-nous, pendant la nuit. Et là encore, nous avons certaines questions qui se posent à nous et pour lesquelles il est très difficile de répondre. Comment est-ce que Abimélec connaissait Dieu? Laissons cela de côté pour le moment. Dieu intervient et il apparaît à Abimélec en songe pendant la nuit. Si la folie ou la bêtise de l'homme met en danger la promesse de Dieu, la sagesse de Dieu redresse la situation. Et pour le salut, nous voyons un homme qui est incapable de faire quoi que ce soit. Mais Dieu intervient. Et c'est pour cela que le salut de la Bible est quelque chose qu'il faut considérer. La sagesse de Dieu redresse la situation. Et nous voyons même plus que cela. Nous voyons que sa providence a été à l'œuvre tout au long et qu'elle est intervenue, on pourrait dire, derrière le décor, sans que nous la voyions. C'est pour ça qu'il dit à Abimélec, « Aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. » Si, d'une manière ou d'une autre, on ne sait pas comment, Abimélec ne s'est pas rapproché de Sarah tout de suite, ça n'est pas pour telle ou telle raison, bien qu'il y ait eu des raisons, c'est principalement parce que Dieu ne lui a pas permis, parce que Dieu voyait que Abimélec n'agissait pas avec des motivations mauvaises. Il agissait comme un homme, comme nous le verrons. Non, Dieu a protégé, Dieu, la providence de Dieu est là, même sans qu'on la voie. Et cela, bien entendu, nous donne de la joie, nous donne en fait de la reconnaissance envers Dieu. Parce que souvent, il arrange nos circonstances de manière à ce que, sans que nous le sachions, sans que nous le voyions et sans que nous le comprenions, il nous protège. Et surtout, il protège son dessein de grâce. On peut penser à des tas de situations. Et sur le moment, nous avons peut-être connu la frustration, peut-être que nous avons connu, nous nous sommes irrités et nous avons été loin d'être remplis de grâce face à la situation. La situation n'entrait pas dans nos pensées, dans notre manière de voir. Pourquoi ? parce que Dieu intervenait et Dieu, dans sa providence, faisait que toute chose concourt à son dessein de grâce. Et donc, au bien de ceux qu'il aimait de toute éternité. Nous pouvons retirer un tel encouragement de cela. Dieu a empêché Abimélec de pécher contre lui. Alors qu'Abimélec, vivant comme un homme, était prêt à le faire. Quel réconfort pour vous et moi, mes amis. Cela ne nous exonère pas de notre responsabilité d'agir correctement. Mais nous avons la certitude de l'accomplissement de la promesse et que cela ne fait aucun doute. C'est le rocher sur lequel nous pouvons nous appuyer. Même quand, dans mes moments de lucidité spirituelle, je me sens comme moins que rien, alors, même alors, je peux me reposer dans la nature même de Dieu, le Dieu qui pourvoit, le Dieu sage, qui, lui, est plus que tout. Je suis moins que rien, il est plus que tout. Il est le Dieu dont j'ai besoin. En fait, il est difficile de savoir où se situe Abimélec au niveau personnel et spirituel. Il parle d'une nation juste, il parle qu'il a agi dans l'innocence. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est difficile à savoir. Parce que Abimélec est un païen par nature. Il est païen par nature tout autant qu'Abraham l'était d'ailleurs, avant que Dieu ne vienne à lui. Mais ne pensons pas que Abimélec c'était une sorte de bon païen, de bon sauvage à la manière dont Rousseau a voulu nous expliquer. Non, c'est un homme pécheur comme tous les autres. Mais c'est un homme. Il y a encore en lui une conscience et quelques restes de l'image de Dieu. C'est pour cela qu'il réagit comme il réagit quand Dieu vient intervenir dans sa vie. Il y a donc encore cette conscience. Et toutefois, cette conscience, ce reste de l'image de Dieu déformé qui est encore là, tout cela ne sert à rien pour le salut véritable. Cela peut garder une certaine forme de moralité, une certaine forme de société, mais face à un Dieu qui exige la perfection, ces choses qui sont loin d'être parfaites ne servent de rien. Quand nous voyons Abimélec se lever, la parole nous dit, de bon matin, qu'il va voir ses chefs, ses princes, les gens de sa maison, et qu'il leur dit, qu'il leur partage ce que Dieu lui a dit, quand nous le voyons reprendre Abraham avec une douce fermeté, il ne parle pas à Abraham comme Pharaon a parlé à Abraham. Quand nous le voyons couvrir la vertu de Sarah à grand prix, c'est ce qu'il fait avec tout cet argent qu'il donne à Abraham. Il couvre la vertu de Sarah. Quand nous le voyons qui ouvre son pays à Abraham, son territoire, il dit où tu veux t'installer, installe-toi. Quand nous voyons tout cela, dis-je, alors nous savons que Dieu a dû faire quelque chose dans le cœur de cet homme. Pourquoi ? Parce que l'œuvre recréatrice de Dieu produit certaines choses. Notamment, elle produit l'obéissance. Et quand on voit un homme qui est dirigeant se lever de bon matin pour faire ce que Dieu lui a dit de faire, nous voyons l'obéissance. Nous voyons un sentiment de ce qui est juste. Quand il s'adresse à Abraham et qu'il lui dit « Mais pourquoi est-ce que tu as fait ça ? Qu'est-ce qu'on t'a fait pour que tu agisses ainsi ?» Nous voyons un sentiment de justice. Quand nous voyons une certaine mesure de bonté et de compassion, alors nous voyons que toutes ces choses chez Abimélec et nous savons que Dieu a fait quelque chose. Il semble que, avant même la naissance du fils de la promesse, Abimélec soit un de ceux qui sont bénis au travers d'Abraham par le Dieu de grâce. C'est un de ceux qui appartient aux nombreuses nations et tribus et qui pourtant a été touché par la foi d'Abraham. Une foi qu'on ne voit pas en Abraham à ce moment-là, mais une foi que Dieu donne. Dieu ne donne pas à travers Abraham, il donne à travers la promesse. C'est ce que nous voyons, la grâce de Dieu est en action pour le salut de son peuple, un peuple cosmopolite, un peuple qui touche toutes les nations, toutes les tribus de la terre. Voilà ce qu'on peut dire. Voilà ce qu'on peut dire. Même 3 ou 4 ans plus tard, nous voyons que Abimélec vient faire un traité avec Abraham et nous voyons toujours les mêmes caractéristiques. Alors, Abimélec, c'est un homme. Et quand au chapitre 21, versets 22 et suivants, il vient faire ce traité avec Abraham, il le fait en chef politique. Il y a des traits de ce passage qui nous le montrent clairement. Mais c'est un homme qui a une conscience de la présence de Dieu et de l'importance de Dieu. Et un homme qui très probablement a été touché par la grâce de Dieu. Ainsi, cette situation qui semble être déjà une annonce de cet évangile de salut qui, un jour, va toucher le monde entier, un jour que nous vivons aujourd'hui, n'est-ce pas ? Abimélec nous encourage, mes amis, à chercher les élus de Dieu, même là où on ne les imaginerait pas. Qui aurait pu penser qu'un roi païen, qu'un prince païen, puisse être touché par la grâce de Dieu, alors même que le patriarche, le père des croyants, était pris au défaut de la cuirasse. Qui aurait imaginé ça ? Et aujourd'hui, amis croyants, nous savons des choses au sujet de ce Dieu. Nous les voyons toujours plus clairement. N'est-ce pas là une motivation puissante pour aller annoncer l'Évangile à la recherche des élus de Dieu, là où ils sont, c'est-à-dire dans le monde. Nous avons vu Abimélec, il y a probablement encore des tas d'autres choses à dire au sujet d'Abimélec, et donc notre étude est lancée. Mais passons en deuxième lieu à un autre personnage, et celui-ci est Abraham. C'est le deuxième personnage de notre histoire. Et tout franchement, ce n'est pas une belle image. C'est même vraiment une énigme. Ce n'est pas étonnant que certains experts ou certains qui se disent experts mettent en doute l'authenticité de ce passage. Il y en a certains qui vont dire parce que cette erreur d'Abraham est répétée, cela montre qu'il y a des sources multiples pour la Genèse. Personnellement, je pense que Moïse vise à susciter ce sentiment d'incompréhension et d'étonnement, et cela pour plusieurs raisons. Le fait qu'Abraham parte vers le sud ne pose pas de problème quand on se souvient qu'il est en fait un semi-nomade. Ça fait des années qu'il est vers Mamré, mais peut-être est-ce que les pâturages sont devenus fatigués de tous ces troupeaux. Quoi qu'il en soit, le voilà qui bouge, cela ne pose pas de problème. C'est peut-être un peu surprenant, au vu de l'annonce qui lui a été faite, que Sarah allait enfanter dans les 12 mois qui viennent. Ce qui ébahit plutôt est cette vieille habitude qui ressurgit de présenter Sarah comme sa sœur. Est-ce que Abraham a oublié l'incident en Égypte ? Est-ce qu'il a oublié le danger encouru ? Est-ce qu'il a oublié aussi la honte de se faire expulser de manière ignominieuse de ce royaume ? Est-ce qu'il a oublié tout cela ? Et seul l'incroyant et le croyant immature sera choqué de voir Abraham agir ainsi. Pour celui qui se connaît en soi peu, la chose est hélas un élément de son expérience, comme il est aisé et courant d'oublier, comme il est fréquent de retomber dans les mêmes travers, si Dieu nous avait abandonnés, nous serions effectivement comme Sodome. Dans le cas d'Abraham et de Sarah ici, il y a peut-être une dimension supplémentaire. Au verset 13, le patriarche semble indiquer que Sarah et lui ont adopté ensemble cette politique de se présenter comme frères et sœurs depuis leur départ de Charan. Au verset 13, il nous dit « Lorsque Dieu me fit errer loin de la maison de mon père, donc Charan, je dis à Sarah, voici la grâce que tu me feras dans tous les lieux où nous irons, dis de moi, c'est mon frère. » C'est mon frère. Et il semble qu'ils avaient pris l'habitude, ils avaient fait une alliance en quelque sorte entre eux pour agir de cette manière-là, et ils avaient pris l'habitude de le faire, ayant la crainte des nations autour. Et vous savez combien les anciennes habitudes s'attachent à nous, lors même que nous avons déjà été réprouvés par nos erreurs. Alors ici, oui, nous avons un couple de la foi, un couple détenteur de la promesse. Oui, ils ont été déjà démasqués en Égypte 20 ans plus tôt. Oui, Abraham est revenu en quelque sorte plein de honte, mais il est revenu dans le pays de la promesse. Et oui, une fois revenu, il a invoqué de nouveau le nom de l'Éternel. Mais rien n'a été fait positivement pour répudier cette politique qui était le fruit d'une jeune foi, d'une foi mal affermie, qui était le produit d'une confiance faible dans l'Éternel. Les stratégies du début, rien n'avait été fait pour écarter de ce côté-là. Et Dieu intervient maintenant pour en libérer le patriarche. Ainsi, nous voyons que si Dieu n'accepte aucune œuvre de l'homme dans l'accomplissement du salut, il va cependant façonner son enfant afin de toujours révéler davantage son Fils en ses élus. C'est ce dont parle l'apôtre Paul quand il dit que Dieu, que nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi, que cela ne vient pas de nous, afin que personne ne se glorifie, mais que Dieu nous a façonnés pour des œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et c'est de cela dont parle Paul, c'est ce que Dieu vise ici, à libérer Abraham des restes de l'immaturité, de cette crainte de l'homme que normalement la foi en Dieu chasse, n'est-ce pas ? Dieu continue à œuvrer en chacun des siens afin de les faire grandir dans la grâce, de sorte que l'image de Christ est de plus en plus claire dans leur témoignage et dans leur vie et dans leur joie. Mes amis, veillons à ne pas être simplement des croyants intellectuels, des croyants qui savent comment le croyant vit, mais qui vivent comme le monde. Ici, nous avons la transformation d'Abraham au travers d'une expérience cuisante, être repris par un païen, en la même image que le Fils de Dieu, de gloire en gloire. N'est-il pas encourageant de savoir que Dieu sèvre son enfant des effets du péché et de la faiblesse de la chair? Et il le fait tout au long de la vie. Ça n'est pas une question de devenir meilleur, d'avoir plus le plaisir de Dieu à son actif. Non, c'est marcher dans la foi et dans la ressemblance au Fils de Dieu. Nous avons aussi ici un rappel que la chair ne participe pas à l'accomplissement de la promesse. Si Dieu n'était pas intervenu, la promesse n'aurait pas pu s'accomplir. En fait, si jamais la chair entrait en compte dans l'accomplissement de la promesse, alors elle mettrait cette promesse en danger. Vous qui cherchez à plaire à Dieu par vos efforts pour le salut, pour obtenir le salut, apprenez la leçon de Guérard. Vos efforts ne servent à rien. Puisque même une fois l'ami de Dieu, Abraham, va toujours en suivant son cœur dans la voie de la chair. Nous avons vu Abimélech, encore beaucoup de choses à voir à son sujet. Nous avons vu Abraham, encore beaucoup de choses à voir à son sujet. Tournons-nous maintenant vers le troisième personnage. Et je l'intitule, ce troisième point, le vrai prophète. Le vrai prophète. C'est le troisième personnage. Et on aurait pu s'attendre à ce que je dise que c'est Dieu. Et il est vrai que Dieu est omniprésent dans tout ce chapitre. Mais si je peux me permettre de dire, ici, nous voyons plus que Dieu. Cela peut surprendre. Mais au verset 7, Dieu dit à Abimélec qu'Abraham est prophète. Et que Abraham, le prophète, priera pour le rétablissement d'Abimélec, le prince. En fait, les paroles de Dieu signifient plutôt qu'Abraham est un homme juste aux yeux de Dieu. Et c'est dans cette qualité qu'il va pouvoir intercéder pour Abraham. Cela peut surprendre, car en fait, Abraham, que Dieu montre comme un homme juste, est en plein péché d'incrédulité. Et certainement, Dieu ne peut pas recevoir les prières d'un homme pécheur en faveur d'un autre, tout au moins pour ce qui concerne le salut. En outre, Abimélec croit dans ses paroles et il honore Abraham comme un prophète. Chose étonnante, c'est Abimélec qui couvre le péché du couple coupable. C'est lui qui donne l'argent, une énorme somme. Et la manière dont il le dit, en fait, il dit « cela va couvrir cet incident ». Va couvrir cet incident. Donc, Abraham intervient, intercède, mais Abimélec couvre le péché. C'est vraiment bizarre, n'est-ce pas? C'est vraiment bizarre. Et l'intercession d'Abraham est efficace puisque Dieu guérit Abimélec. Et nous avons donc cette situation bizarre et qui peut nous interpeller. Ces signes et cette combinaison, l'un et l'autre, qui font les choses d'une manière inhabituelle et incomplète, n'est-ce pas? En fait, ces choses-là nous parlent de quelqu'un d'autre. Tant Abraham qu'Abimélec sont incapables, par eux-mêmes, de se débarrasser de cette situation. Abimélec peut ramener Sarah auprès d'Abraham, mais cela ne couvre pas, cela ne guérit pas son infertilité. Non. Et Abraham, en fait, ne peut pas se débarrasser de cette situation. L'incident d'Égypte, 20 ans avant, montre cela. Abimélec a besoin des prières d'un homme pécheur pour être délivré de la condamnation qui s'attache à cette situation. Abraham, lui, a besoin qu'Abimélec paye pour assurer l'honneur et l'intégrité de sa femme, la mère de la promesse. Mais voici que dans l'alliance de Dieu survient quelqu'un, approuvé de Dieu, désigné comme étant le juste. Et ce juste, majuscule, J majuscule, il vient. Mais il ne vient pas dans la splendeur dévorante et destructrice de la divinité. Il vient plutôt dans la faiblesse de la chair. Sans péché pourtant, mais dans la faiblesse de la chair, dans l'humanité. Et donc, il peut compatir à la faiblesse de l'homme. Il peut comprendre. Et surtout, dans sa puissance, il paie la totalité de la dette du déshonneur, de la dette du péché, où son peuple s'est plongé. Il ôte le péché du monde et il intercède à toujours pour ceux que son Père lui a donnés. Voilà celui dont Abraham et Abimélec parlent ici dans ce chapitre 20. Abimélec et Abraham se combinent pour donner une image prophétique du Fils de la promesse. Et c'est lui qui vient, lui qui est le vrai prince, selon la descendance de David, lui qui est le vrai prophète et le sacrificateur. Il offre le vrai sacrificateur ayant un sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek, éternel, et il accomplit parfaitement la rédemption de son peuple. Voilà celui vers qui nous devons tourner les regards pour être sauvés. Voici celui vers qui nous devons tourner les regards pour avoir cette assurance de notre salut. Tant de détails obscurs dans ce chapitre, mais finalement des détails secondaires qui un jour nous seront peut-être clairs. Avant tout, portons. Faisons comme Abraham, portons les regards sur le jour de Christ et, comme lui, comme Abraham, le père des croyants, tout pécheur qu'il était, réjouissons-nous. Ô mes amis, que la joie d'Abraham habite chacun de nos cœurs et que Dieu en soit glorifié. Amen.